Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, accompagné de Vincent. Comment ça va?
Salut JC, salut à tout le monde. Eh bien, écoute, ça va très bien. Hein. Quand on parle boxe, ça va toujours.
Bienvenue, bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Donc, n'hésitez pas, vous savez qu'en description de cette vidéo, vous avez aussi les plateformes pour les écouter sans être embêté. Donc, c'est des plateformes de streaming. Vous avez trois sites et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur les sujets dont on va parler aujourd'hui. Vincent, j'attaque tout de suite avec la catégorie des poids welter, une très belle catégorie, les moins de 66,6 kg. Et je voudrais te parler de Danny Garcia, qui va boxer ce week-end, qui n'a pas boxé depuis son combat contre Errol Spence Jr. Donc Danny Garcia, aujourd'hui, il a 34 ans, 36 victoires, 21 remportées par KO, 3 défaites, et il va affronter José Benavides. Je ne pense pas que c'est le combat que tu attends le plus cette année, Vincent.
Non, 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 c'est pas le combat que j'attends le plus, loin de là. Après, bon, ça peut être un combat intéressant dans le sens où chez les welters, c'est toujours assez intéressant si c'est une très belle catégorie comme tu l'as rappelé. Danny Garcia, reste à savoir où est-ce qu'il en est. Effectivement, comme tu l'as rappelé, il n'a pas boxé depuis sa défaite contre Spence Jr. Il est plutôt jeune. Et en face, ben écoute, José Benavides Jr., qui, il faut le rappeler, le frère de la terreur David Benavides des super moyens. Et ben, qui, lui, moi, je me souvenais surtout de son combat contre Terence Crawford, où il avait fait un combat pas mal, mais il finit quand même KO dans le tout dernier round. Et après ça, j'ai l'impression quand même que cette défaite a un peu cassé sa. C'était sa première défaite et ça a cassé sa dynamique complètement. Après ça, le combat suivant, il en a fait un en novembre dernier. Je ne l'ai pas vu complètement, mais j'ai vu que ça s'était terminé par un nul contre Francisco Torres. Donc lui aussi, je ne sais pas trop où il en est. Donc pour les deux, je pense que ça va être un peu une mise à niveau, on va dire. On va voir où est-ce qu'ils en sont.
Ok, Vincent, merci pour ces précisions. Moi, je vois Danny Garcia un peu au-dessus quand même. Voilà, si on doit dire comme ça un petit prono avant combat, je le vois quand même un peu au-dessus. Mais je te parle de Danny Garcia, pas parce que voilà, cette affiche est particulièrement intéressante, mais il y a une petite idée qui m'est trottée dans la tête. Et je vais te dire un peu ce qui m'est venu en tête. Le 6 août, on a Virgil Ortiz Jr. qui remonte sur le ring. Ça, je pense que comme beaucoup, tu l'entends, le petit jeune, qui a 24 ans, 18 victoires, 18 KO et aucune défaite. Donc, ce petit jeune là de 24 ans qui n'a pas boxé depuis l'année dernière, hein, ça fait un
Oui.
coup pile, hein, c'est ça?
C'est ça, c'est un août dernier, hein.
C'est ça. Et moi, ce que je me suis dit, c'est les gars comme Danny Garcia, qui sont un peu les anciens, qui ont été champions du monde, qui ont fait des grands combats, est-ce que ça ne serait pas un joli test pour la nouvelle génération qui arrive? Donc, je pense à d'autres, hein. Après, je vais te laisser développer. Je pense à d'autres comme Jaron Ennis, qui a 25 ans, 29 fois, 27 remportés par KO. Je pense aussi à Conor Benn, on en parlera un petit peu après. Mais ces petits jeunes-là qui sont, parce que Conor Benn, il a aussi 25 ans, 21 victoires, 4 remportés par KO. Ces petits jeunes, ils sont dans le top 10. Donc, Virgil Ortiz Jr., il est quatrième chez Boxrec, cinquième chez Ring. Jaron Ennis, il est septième chez Boxrec, troisième chez Ring. Conor Benn, il est huitième chez Boxrec, neuvième chez Ring. Et Danny Garcia, moi je pense que c'est le genre de test contre qui on aimerait les voir boxer. Je pense à Danny Garcia, mais aussi à Keith Thurman, 33 ans, 30 victoires, 22 remportées par KO et une défaite. Tu vois, est-ce que tu trouves pas que ça serait des beaux profils pour faire évoluer ce boxeur? Ou est-ce que toi, pour toi, ils sont déjà au-dessus de ça?
Alors, pour ce qui est de Conor Benn, je suis d'accord avec toi pour dire que des Danny Garcia et des Keith Thurman, ça serait très bien pour le faire évoluer. Ça pourrait lui poser beaucoup de problèmes. Par contre, très honnêtement, que ce soit Jaron Ennis ou Virgil Ortiz, ouais, je pense vraiment qu'ils sont passés au-dessus de ça. Moi, vraiment, si tu parles d'un Garcia, par exemple Ortiz, je vois Garcia se faire détruire parce qu'en plus, cette nouvelle génération, un petit peu, est dans le. Je veux dire, dans le move de toutes les autres, de ce qu'on voit chez les jeunes boxeurs aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des mecs qui sont pas des vrais welters, en fait. C'est Virgil Ortiz, Jaron Ennis, c'est des poids moyens quasiment, ces mecs-là. Donc, très honnêtement, je pense pas qu'en fait, des Danny Garcia ou même un Keith Thurman, qui pourtant était un poids welter naturel, ils aient la caisse physique aujourd'hui pour tenir face à ces jeunes gars. Par contre, pour Conor Benn, qui est quand même aussi physiquement assez imposant, même s'il est moins imposant que les deux autres, il n'est pas encore à ce niveau-là, donc je pense que pour lui, ça pourrait être des tests très intéressants.
Là, ce que tu parles avec l'argument du poids, ce qui est très intéressant, ça va faire une bonne transition avec un autre sujet que je vais t'amener. Mais je vais revenir donc aux arguments que tu as donnés. Bon, moi, je suis assez d'accord avec toi. OK, peut-être que Virgil Ortiz Jr. et Jaron Ennis, ils battraient. Bon, le physique ferait qu'ils remporteraient ce combat-là. Attention, on a vu que Kesterman, il s'est quand même bien débrouillé dans son dernier combat.
Contre Barrios,
parce qu'il revenait de loin. Voilà, donc peut-être que peu de gens l'attendaient à ce niveau-là, en tout cas. Donc, il faut quand même se méfier des anciens. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'aussi, au-delà de l'opposition physique qui pourrait leur apporter et des difficultés qui pourraient leur donner sur le ring, il y a aussi l'aspect de faire monter ton nom et donner de envie au public de te suivre en battant quelqu'un qui a fait son temps dans la boxe, qui est un peu connu, faire une belle affiche. Et sur, alors je te dis, pour aller après défier les meilleurs de cette catégorie qui sont Terrence Crawford et Errol Spence Jr.
Oui, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi. Effectivement, d'un point de vue stratégie de carrière, c'est très intéressant pour eux. Surtout pour Virgil Ortiz qui s'est fait, hélas un peu oublié avec cette période d'arrêt puisqu'il a eu un très gros souci de santé, Virgil Ortiz, en début d'année, on le sait. Là, il en est remis. Mais c'est vrai que ça a un peu coupé la dynamique qu'il y avait autour de lui. Donc oui, de reprendre un nom comme ça, qui est un peu connu, pour le remettre sur le devant de la scène, c'est vrai que c'est bien vu.
Toi, c'est des affiches qui te plairaient, t'aimerais les voir ou pas?
Ouais, je serais intéressé. Forcément, ça serait. De toute façon, les deux, que ce soit Jaron Ennis ou Virgil Ortiz, je pense que maintenant, quand tu suis la boxe, ces deux mecs, t'es intéressé par leur prochain combat parce que tu vois les phénomènes monter. Maintenant, moi, c'est vrai que j'attends pour. Je pense que vraiment, ces deux boxeurs qui sont mûrs pour les gros combats. Alors, effectivement, on parle d'une catégorie, les welter, où c'est un peu cadenassé entre deux excellents boxeurs, deux cracks qui sont vraiment Errol Spence et Terrence Crawford. Donc clairement, il n'y a pas de championnat du monde facile dans cette catégorie. Mais c'est vrai que là, ils sont à un stade où ben, je crois qu'il faut faire le grand saut, quoi.
Alors Vincent, moi, je vois déjà venir les retours, les réflexions, les gens qui vont nous dire, mais vous parlez de ces gars-là pour affronter les meilleurs, pour affronter, pourquoi pas, des anciens. Mm-hmm. Mais pourquoi ils ne s'affrontent pas entre eux, ces jeunes? Pour dire, ouais, qui c'est qui mérite sa chance pour le titre?
Bien sûr, ça serait, moi, si demain t'annonces Jaron Ennis Virgil Ortiz, j'ai envie de dire, ça sera un des meilleurs combats que tu puisses avoir cette année, même s'il n'y a pas de titre en jeu. Qu'il nous fasse un peu une Dubois Joyce, ouais, ça serait intéressant. Je pense pas que ça arrivera parce qu'on sait qu'ils veulent peut-être pas se griller une chance. De toute façon, normalement, à moins de match nul, il y en a qu'un des deux qui va survivre à cette rencontre. Donc, c'est très risqué. Et quelque part, si c'est pour se retrouver après pour le titre, on a envie de dire, on va pas forcément leur en vouloir. Après, c'est vrai que oui, dans la logique, on pourrait très bien dire, comme à l'ancienne, ben, affrontez-vous et le vainqueur gagne sa légitimité pour affronter le vainqueur d'un potentiel Spence Crawford qui, on le rappelle, au moment où on fait le podcast, n'est pas du tout officiel.
Hein. Ouais, moi, il me saoule. Hein. Bon, je n'ai même pas vraiment envie de m'étaler là-dessus, il me saoule. Mais je voulais, ça me fait penser aussi, tu sais, aujourd'hui, on souffre forcément de la comparaison de la boxe avec le MMA. Et justement, dans le MMA, on a ça. Je trouve que les combats comme ça, on les a beaucoup plus vite.
C'est vrai.
Est-ce que tu ne penses pas que, justement, le fait que le MMA donne au public les combats qu'ils attendent, est-ce que tu ne penses pas que ça va pousser un peu la boxe à le faire?
Oui, mais ça le fait déjà depuis quelques années, si tu regardes. Moi, tu sais, quand je me faisais la réflexion, compare à ce qu'on vivait entre le début des années 2010 jusqu'à 2015, 2016, on avait quasiment fait une croix sur les grosses affiches. On se disait, bon, ça se fera jamais. C'était normal presque. Tu sais, limite, personne n'aurait allé. On disait, oui, bah, on sait très bien, ils sont pas chez le même promoteur, ils ne s'affronteront pas. Depuis quelques années, je trouve quand même que sur les affiches qu'on a eues, que ce soit Ward Kovalev, que ce soit Canelo Golovkin, Lomachenko Lopez, les unifications totales qu'on a eues, même les Fury Wilder, tout ça. Donc, je trouve quand même que depuis quelques années, on a plus d'affiches que ce qu'on en avait maintenant. C'est pas encore parfait, il y a encore des affiches qu'on attend, qu'on veut voir, mais je trouve quand même qu'il y a une nouvelle dynamique depuis la moitié de la décennie 2010-2019, quoi.
Assez d'accord avec toi. Comme je disais tout à l'heure, tu m'as fait une bonne transition en parlant du poids de cette génération-là qui, c'est vrai, ils sont impressionnants physiquement quand ils montent au ring. Eh bien, il y a Conor Benn, on parle d'un combat contre Chris Eubank Jr. Mm-hmm. Alors, ça serait plus ou moins fait. Donc, Chris Eubank Jr., je rappelle qu'il a 32 ans, 32 victoires, 23 remportées par KO et 2 défaites, et qui reste sur une bonne série. Alors, c'est un combat qui est bien sûr alléchant parce que c'est les fils d'eux qui se retrouveraient, donc leurs deux papas se sont affrontés. Tous les deux, ce sont des boxeurs qui vendent beaucoup dans leur pays, qui remplissent des salles. Pour moi, c'est l'opportunité parfaite de faire ce combat-là parce que tout le monde y est gagnant, je pense. Hein. Tu me diras ce que tu en penses. Mais voilà, ça va remplir une salle, ça va faire des chiffres de pay-per-view de fou. Parce que là, c'est sûr que les Anglo-Saxons, ils vont regarder à fond ce combat-là. Il va y avoir du trash talk, ça va être un combat explosif. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette affiche? Qui donc serait un Conor Benn qui devrait monter en poids? Et on parle d'un Chris Eubank Jr. qui descendrait un peu, parce que je rappelle qu'il est chez les poids moyens. Et donc, il faudrait se retrouver aux alentours des poids super welter. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, alors, il faut voir physiquement comment c'est possible, parce que c'est vrai que Conor Benn, il est poids welter. Donc, est-ce qu'à ce stade-là de sa carrière, faire une montée chez les super welter, c'est pas un peu prématuré? Chris Eubank, on rappelle que c'est un mec qui a été moyen de base et qui était monté en super moyen. Je crois pas qu'il ait boxé un super welter, ou alors peut-être au tout début de sa carrière, mais revenir à cette limite-là, ça va peut-être être compliqué. Après, bon, oui, peut-être qu'il peut trouver une solution avec les catchweight. Et sinon, ben, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est, il y a un côté un peu dans ce combat, c'est, quelque part, on se dit, ouais, est-ce qu'ils nous font pas un peu de l'enfumage parce que c'est les fils d'eux? Mais d'un côté, on a tous envie de le voir pour la narration. Ben, c'est Creed 2, quoi, ce combat, tu vois. C'est les fils d'eux qui se rencontrent, effectivement, en Angleterre, en plus. C'est des Britanniques. Donc, tu sais que ça va buzzer. Les premiers combats entre les pairs ont tellement buzzé. C'est, comme tu le dis, c'est deux fortes personnalités. C'est deux beaux styles aussi de boxe. Enfin, c'est deux styles qui sont en tout cas excitants. J'ai pas souvenir de m'être emmerdé sur un combat de l'un d'eux. À la limite, Chris Eubank, le dernier combat était un peu trop à sens unique, mais c'était quand même, il y avait des trucs plaisants à voir, quoi, je veux dire. Donc, en fait, c'est forcément, oui, c'est une affiche, bien sûr, que s'ils la font, si ça se réalise, ça va faire un carton. Et c'est pour ça que ça, effectivement, comme tu le dis, ça a des chances de se réaliser.
Alors, j'aurais un petit bémol, c'est que pour Chris Eubank Jr., c'est le top. À 32 ans, moi, tu sais que je l'aime beaucoup, mais je sais qu'il n'est pas vraiment au niveau des champions actuels. Il aura peut-être pas une seconde chance de sitôt. C'est compliqué. Surtout quand on sait que la catégorie des poids moyens, elle est plutôt fermée. Mais pour Conor Benn, je vais encore me faire descendre. Pour Ben, est-ce que c'est pas aussi peut-être se tirer une balle dans le pied? Parce que imagine qu'il y laisse des plumes. Parce que c'est risqué avec le face au Chris Eubank Jr. parce que ça tape quand même. S'il y laisse des plumes, est-ce que tu peux te dire, ah merde, t'aurais pu un peu plus contrôler ta carrière, surtout que t'es en Angleterre, t'as les promoteurs derrière toi, t'as un nom. Est-ce que ça serait pas un peu risqué?
Ouais, c'est ce que je te dis à ce stade de sa carrière, c'est peut-être un peu prématuré. Effectivement, il va avoir un gros gabarit en face. Il y a un mec qui a plus d'expérience que lui, pardon, qui effectivement ça tape. Après, je sais pas, en fait, comment il voit la carrière de Conor Benn. Conor Benn, moi, j'ai un peu du mal, en fait, pour l'instant, à le voir. C'est vrai que au début, je me suis dit, c'est un mec, est-ce que c'est pas un mec un peu comme ce dont on parle, par exemple, de Campbell Hatton, le fils de Rick Hatton. On se dit, est-ce qu'ils font pas une carrière sur mesure ou quoi? Mais quand même, il faut reconnaître que ses dernières performances face à des adversaires d'un niveau de plus en plus élevé. Et Conor Benn, on se dit, ouais, non, finalement, quand même, ça fait partie aujourd'hui du top 10 des welter, qui est une des catégories les plus relevées. Donc, je sais pas quelle ambition ils ont pour sa carrière. Soit, en fait, ils voient sa carrière un peu comme celle de Chris Eubank Jr., c'est-à-dire qu'ils se disent, peut-être qu'il va avoir un plafond et qui va jamais atteindre le niveau mondial, donc autant faire ce type de combat. Mais c'est vrai que si tu es son promoteur, comme tu dis, légitimement, tu peux te dire, au vu de ce qu'il nous montre pour l'instant Conor Benn, ben ouais, il peut peut-être aller plus loin que Chris Eubank Jr. lui est allé. Donc, qu'est-ce que ça vaut le coup de le griller, de peut-être potentiellement le griller avec un combat comme ça? Je suis d'accord avec toi, c'est un risque.
Alors attention, je vois ce que tu veux dire par rapport à Campbell Hatton, mais ne comparons pas l'incomparable. Il y a une grosse différence de niveau quand même.
Bien sûr. Non, mais si tu veux, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'à la base, si tu veux, moi, Conor Benn, dans ses débuts, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas un peu sur ce registre-là? C'est-à-dire que si on te met des adversaires en face qui te font briller, sauf que là, effectivement, force est de reconnaître que depuis quelques années, lui, il a franchi ce cap, Conor Benn, et qui nous montre effectivement qu'il est sur un gros niveau quand même.
Mais tu sais, dans la boxe, avec une bonne promotion, avec beaucoup d'entraînement, on peut arriver à se monter une carrière et on peut passer du coup à notre cher Jake Paul. Parce que, alors, je tiens d'abord à dire à Jaune Bœuf qui m'a écrit un petit mot en me disant je vais utiliser Jake Paul pour faire les 100 000 abonnés. Alors déjà, nous sommes sur la chaîne de podcast, donc je pense qu'on n'aura jamais les 100 000 abonnés. Et je pense qu'il faisait référence à la chaîne Box Attitude où on se rapproche des 100 000 abonnés. C'est incroyable. C'est, franchement, j'y crois même pas. Mais je tiens à lui dire que je n'ai pas parlé de Jake Paul. Je n'ai plus parlé de Jake Paul depuis le 2 avril sur la chaîne principale. J'ai arrêté. Donc, voilà. Je tiens à le signaler. J'ai arrêté. Maintenant, je parle de boxe sur Box Attitude. Mais c'est vrai que ce Jake Paul qui prend pas mal de place et son nom, on va être amené à le dire encore et encore. Parce que déjà, en tant que promoteur, il fait un joli travail avec
Amanda Serrano.
Serrano, qui sera d'ailleurs à la carte du prochain combat de Jake Paul. Il y aura d'ailleurs les titres des poids plumes WBC et WBO en jeu pour son combat. Ça va être à New York. Ça va être quand même une soirée de boxe intéressante. Et on parle du premier adversaire intéressant pour Jake Paul, qui devait d'abord affronter Tommy Fury, voilà, je le rappelle. Et puis finalement, il n'a pas pu venir aux États-Unis. Bon, bref, encore des micmacs pas possibles. Parce qu'il affrontait pour la première fois un boxeur, entre guillemets. C'est-à-dire un mec qui avait vraiment une carrière de boxeur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il a affronté que des débutants et des mecs qui venaient d'autres disciplines et parfois des disciplines qui n'avaient rien à voir, comme par exemple le basketball.
Ouais.
Là, il affronte quand même un boxeur. Et donc, son remplaçant à Tommy Fury, donc c'était. C'était marrant sur les réseaux parce que on impliquait beaucoup le papa Fury, le papa de Tyson Fury et Tyson Fury qui s'impliquait un peu dans la promotion de ce combat-là. Donc c'est vrai que ça faisait parler sur les réseaux. Quelqu'un comme toi, Vincent, qui aime beaucoup Tyson Fury, forcément, bah tu vas suivre quand Tyson Fury trollait tout ça. Tu vois, forcément, ça venait à tes oreilles.
Oui, oui, bien sûr.
Je pense que c'est ça qui rendait ce combat-là intéressant. Mais sur le ring, c'est vrai que je commençais à avoir des doutes et je me disais même que est-ce que Tommy Fury est-ce que ça va vraiment être quelqu'un qui va apporter des difficultés à Jake Paul? Tu vois, j'en arrivais à me poser la question. Et finalement, avec ce remplacement par Asim Rahman Jr., qui est aussi un fils de boxeur, hein, un champion du monde poids lourd, peut-être qu'on y a gagné au change. Qu'est-ce que tu penses de cette affiche?
Alors écoute, je dirais que ça ne me passe pas grand-chose, puisque moi, Jake Paul, je vais être honnête, j'ai jamais regardé un de ses combats. J'ai juste vu des extraits défiler, puisque forcément, j'ai pas pu y échapper. C'était sur DAZN, c'était partout. Moi, je me suis pas du tout intéressé au personnage de Asim Rahman Jr. Donc, très honnêtement, c'est pas un combat moi qui m'intéresse, ce qui tourne autour de Jake Paul. Donc, je t'avouerai que j'aurais pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, je connais même pas le pedigree de Asim Rahman Jr. S'il a eu un bon parcours professionnel, même si je me doute que c'est pas un crack pour que Jake Paul le prenne, mais si c'est un boxeur pro qui a quand même quelques combats à son actif, effectivement, tu peux dire voilà, pour la première fois, peut-être Jake Paul il va prendre quelqu'un où il y a un risque où c'est plutôt honnête. Après, je sais pas au niveau du gabarit aussi, j'ai pas du tout vu à quoi il ressemblait Asim Rahman Jr. C'est un vrai poids lourd.
C'est un petit poids lourd.
Ah, moi, c'est un petit poids lourd.
Je l'ai vu à New York, je l'ai vu se parer devant moi.
D'accord. Et il pèse combien? Donc, du coup, plus de 90 kilos.
Ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'il doit être proche des 100 quand il est comme ça en prépa. Mais c'est vraiment un poids lourd. C'est-à-dire qu'il boxe, tu vois, au rythme poids lourd, il cogne. Mais c'est pas, tu vois, c'est un poids lourd, mais c'est pas un puncher pour un poids lourd.
D'accord, ouais. Parce que Jake Paul, lui, il doit être à quoi? 90 kilos, un peu plus?
Ouais, ouais, ouais. Il est à 90, toi. Il va faire juste la limite.
D'accord.
Mais bon, écoute, je vais pas t'embêter plus longtemps avec ça, parce que je vais y dédier une vidéo. Ce qui est marrant, c'est que moi j'ai pu l'observer et que Fred Julland a même tourné avec lui. Et voilà, je vais faire juste un petit clin d'œil à Fred Julland. Il sera à cette carte. Donc je sais pas si tu as vu passer ça, Vincent.
J'ai vu passer l'info sur ta page, effectivement, ouais.
Voilà. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que Fred Julland, il boxe Joseph Ward. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a tourné en sparring avec Joseph Ward et que Jake Paul a aussi tourné en sparring avec Asim Rahman Jr. Donc, je voulais faire, là, j'ai contacté Fred aujourd'hui, je lui ai dit, ce qui serait super intéressant, c'est de faire un podcast où tu nous parles du fait de boxer un de tes sparring. Tu vois, ça, je trouve que c'est un sujet de vidéo assez intéressant. Et, mais bon, comme là, il est concentré dans son combat, je lui ai dit, écoute, on fera ça. Enfin, je lui ai proposé. Il m'a dit qu'il préférait faire ça après le combat, ce que je peux comprendre. Parce que là, c'est un combat qui a un gros enjeu pour lui. C'est l'occasion de relancer complètement sa carrière. Donc, il est focus. N'hésitez pas à aller lui envoyer un petit message de soutien sur les réseaux. Voilà, Fred Julland, vous l'avez vu de nombreuses fois sur Box Attitude et même sur la chaîne de podcast. Donc, c'est super sympa de le soutenir. Et on pourra, j'espère, voir son combat à mon avis, il sera télévisé. Donc voilà, je finis juste sur ça, Vincent. Comme ça, est-ce que tu as en tête un combat où deux sparring partners se sont affrontés sur le ring?
Ah, comme ça, je sais pas, je t'avoue qu'il y en a, eu dans l'histoire, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, mais tu vois, il y en a pas un qui me vient comme ça à l'esprit particulièrement.
Holmes.
Ouais, c'est Holmes Ali, oui, voilà, Holmes Ali, effectivement. Oh, oui, c'est probablement le plus célèbre, ouais.
Et puis, surtout, comme ça se finit, c'est assez triste. Comme
ah, ben, c'est, oui, c'est la fin d'Ali.
Donc, mais tu vois, je pensais qu'il te serait venu tout de suite.
Oui, mais c'est vrai que j'ai pas du tout pensé. Tu vois, il était peut-être tellement évident que je cherchais ailleurs. Mais il y en a eu des sparring qui se sont rencontrés sur le ring, effectivement. Il y en a eu pas mal. Même des fois, il y a des combats de champions dont on ne soupçonne pas, mais qui étaient autrefois sparring, effectivement.
Donc voilà, moi, en tout cas, ça va être un sujet de podcast qu'on va faire ensemble dès qu'il aura, j'espère, remporté cette victoire contre Joseph Ward. Ça va être vraiment un combat important pour lui. Et pourquoi pas, après, il va peut-être défier Jake Paul sur le ring.
C'est fou. Parce que Fred Julien, il est un super moyen, c'est ça?
Ben non, il est dans la catégorie de... il serait dans la catégorie de que Jake Paul ferait maintenant... Si vraiment Jake Paul veut devenir sérieux et viser un titre, il va aller en mi-lourd, c'est sûr, parce qu'il ne peut pas rester en cruiserweight.
Fred Julien est mi-lourd, ouais.
Et Fred Julien est mi-lourd. Donc,
d'accord, ouais.
Ouais. Ce serait intéressant, ça serait possible. Non, mais bon, après, bon. Allez, on arrête de déconner. On va passer au sujet de notre podcast, le sujet le plus important que tu voulais particulièrement faire aujourd'hui. C'est Vasily Lomachenko et son potentiel retour. Donc, Lomachenko, rapidement, en quelques mots, il a 34 ans aujourd'hui. Il a 16 victoires, 11 remportées par KO, 2 défaites. Son dernier combat était le 11 décembre 2021. Et tu vas nous dire un peu, Vincent, pourquoi il n'a pas boxé depuis? Qu'est-ce qui s'est passé dans la carrière de Vasily Lomachenko?
Il s'est passé, je pense qu'effectivement, beaucoup l'ont évidemment suivi. Ça a été le cas de beaucoup d'athlètes sportifs ukrainiens qui, au moment où la guerre a éclaté, se sont retrouvés mobilisés. Alors lui n'était pas en Ukraine. Il a choisi de revenir en Ukraine pour être donc mobilisé dans l'armée ukrainienne. Et c'est vrai qu'après quelques mois, il y avait eu cette opportunité où en fait le ministre des Sports ukrainien avait déclaré qu'il laisserait certains athlètes en fait se soustraire à leur obligation d'incorporation dans l'armée pendant la période de guerre pour pouvoir. Oui, excuse-moi.
Excuse-moi, je voudrais juste que tu précises avant de passer à cette étape-là l'échéance sportive pour Lomachenko juste avant que la guerre se déclenche. Il préparait pas.
Mais justement, j'allais en parler parce qu'en fait, on l'avait officialisé au moment où la guerre avait déjà éclaté par rapport à Kambosos. J'imagine que c'est de ça que tu veux parler.
Ah, quand Anel le remplace, la guerre est déjà encore.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il était déjà dans les plans. Il y a la guerre qui a éclaté et après, il y a eu effectivement cette injonction du ministre des Sports ukrainien et on a dit à Lomachenko, tout comme on a dit à Usyk, vous pouvez quitter le front, aller vous entraîner et vous pourrez disputer les combats qui sont en attente pour Usyk, donc c'était Joshua. Et Lomachenko contre Kambosos, moi j'étais persuadé que du coup il allait foncer dessus, lui qui rêve depuis des années de devenir champion incontesté, qui plus est face à Kambosos, je trouve que c'était une grosse opportunité. Et le contrat était vraiment quasiment conclu et en fait Lomachenko a choisi de rester en Ukraine, donc dans l'armée. Et du coup, c'est Devin Haney, effectivement, qui l'a remplacé. Et on se demandait, Lomachenko, si on allait le revoir sur un ring cette année, même si on allait le revoir tout court sur un ring. Parce que mine de rien, je vois beaucoup dans les commentaires, certains qui disent « Oui, mais ils ne sont pas en première ligne, bien évidemment. » Mais ils étaient quand même dans des zones de bombardement. Et je vous signale qu'il y a eu des athlètes ukrainiens qui ont perdu la vie dans ce conflit, mine de rien. Et Lomachenko, finalement, c'est confirmé qu'il s'entraîne depuis plusieurs mois. Et que du coup, il devrait revenir sur le ring pour le mois d'octobre.
D'accord. Qu'est-ce que toi, comme ça, première impression, t'es rassuré ou t'es un peu inquiet d'un Lomachenko qui revient alors que la guerre, c'est encore tendu, tu vois?
Ouais, je suis rassuré dans le sens où je te dirais que forcément, s'il reprend sa carrière, c'est que... peut-être déjà lui commence en tout cas à aller vers autre chose. si tu veux, je me fie aussi pas mal à ce qu'on voit de Usyk. Usyk, bon, il faudra voir ce que ça va donner sur le ring, mais du peu qu'on a vu de lui, on n'a pas l'impression que... Enfin, bien sûr que ça l'a impacté quand ton pays est en guerre, que ta famille est sur place, ça t'impacte. Mais je veux dire, on a l'impression que le sportif, sa carrière continue à Usyk quand même. Et Lomachenko, je pense que c'est quelqu'un qui est suffisamment focus, qui est suffisamment, comment dire, qui a suffisamment la tête froide pour en fait garder ses objectifs en tête. Et je pense que c'est aussi le fait que lui se sente de revenir. Parce que s'il a refusé le combat contre Kambosos, c'est qu'il se sentait sans doute pas de revenir. Si là, il le fait, c'est que je pense qu'il se sent de revenir. Parce que n'oublions pas qu'il a quand même mis une croix sur une opportunité en or de réaliser son rêve de devenir champion incontesté à 4 ceintures avec Kambosos. Donc, s'il accepte de revenir aujourd'hui, c'est que je pense qu'au fond de lui, il se sent de revenir en fait.
Ouais, et est-ce que, au-delà de se sentir, est-ce que tu penses que c'est pas aussi un choix, c'était encore trop récent, tu vois, trop frais, et de se dire que quelle image tu vas renvoyer, ça peut jouer aussi, ça peut être dans la tête d'un sportif. Peut-être que physiquement, il était prêt à le faire, et je pense que même qu'il aurait pu, mais que se dire, ouais, mais attends, quelle image j'envoie?
Oui, c'est peut-être qu'à ce stade-là du conflit, effectivement, c'est très compliqué. Bien sûr, ouais.
Et que de ça, peut-être tout le monde était sous tension, on bannissait les combattants russes de plus en plus. Peut-être qu'il s'est dit aussi, c'est peut-être pas le moment.
Oui, c'est possible. C'est possible, ouais.
Ouais. Mais en tout cas, ouais, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où quand tu vois Usyk, quand tu vois Loma, c'est des hommes qui sont tellement dédiés à leur sport et surtout à la performance, tu vois, dans leur discipline. Je te disais avant qu'on commence, en ce moment, je suis en train de me regarder beaucoup de combats de Loma, mais aussi des documentaires sur eux, et parce que je m'en inspire énormément moi dans quand je pratique du sport. Et c'est vrai que quand tu vois certains combattants, je pense souvent à des Américains, hein, mais aussi des Anglais, qui vont se relâcher complètement entre les combats, qui vont faire la fête, tu vois, et qui s'en cachent même pas, tu vois. Et quand je vois eux comme ils sont disciplinés, qu'ils sont, tu sais, qu'ils ont vraiment cette mentalité, je me dis que presque rien ne pourrait les ébranler dans le fait d'aller tous les jours à l'entraînement. Après, dans le combat, moi, c'est ma petite interrogation par rapport à Usyk, on va bien voir, mais en même temps, il est face à Joshua, donc ce qui rééquilibre un peu pour moi, parce que je pense que Joshua est plus fragile mentalement que Usyk, malgré la...
Ouais, mais, non, je pense.
Par contre, les légers, la catégorie des légers, c'est des terreurs là dans le top, tu prends le top 5, et Loma il est un peu plus vieux, donc je pense que c'est aussi peut-être ça qui le pousse à son retour. Je te donne un peu mon avis, hein. Après voilà, c'est un peu des impressions, hein. C'est pas, voilà, je me base sur rien, c'est des impressions. Je me dis peut-être qu'il se dit, j'ai 34 ans, si j'attends que le conflit se termine, mon corps, bah, il régresse, donc il faut que j'y aille. Et peut-être que poussé par l'horloge, il y va sans être sûr à 100% d'être au top. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, tout à fait. C'est une réflexion qui est très intéressante. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, en fait, la carrière de Loma, si on la reprend du début, c'est une éternelle en fait, course contre la montre, puisque quand il arrive chez les pros, il a déjà un tel palmarès amateur de plus de 400 combats qui savent qu'en fait, ça ne va pas être une carrière très longue. Et c'est d'ailleurs pour ça que lui demande en fait un combat. Pour le championnat du monde, il en voulait un dès son premier combat, il ne l'aura qu'au deuxième. Mais en fait, si cette carrière en accéléré, la thèse officielle, ça a été de dire c'est parce qu'on veut marquer l'histoire, mais la réalité aussi, c'est qu'on savait très bien qu'on était déjà dans une course contre la montre, comme c'est souvent le cas pour ces boxeurs qui ont d'énormes carrières en amateur. Après, là où c'est intéressant ce que tu as dit, c'est que tu parles de son retour dans cette catégorie des poids légers où le niveau est relevé, mais il y a quelques rumeurs qui commencent à dire que Lomachenko, il aurait perdu du poids et que potentiellement, il pourrait peut-être revenir chez les super plumes. Et ça a été d'autant plus alimenté cette semaine que Bob Arum s'est beaucoup prononcé sur un potentiel combat qu'il aimerait faire en 2023, Lomachenko contre Shakur Stevenson. Et justement, Shakur Stevenson l'avait précédé de quelques jours, Bob Arum, en évoquant ce combat. Alors, est-ce que peut-être...
Alors là, c'est fou. Tu m'entends
Ouais, je t'entends très bien.
Alors là, c'est fou parce que toi, t'étais celui qui disait non, je pense pas que Loma. C'est souvent quand on.
Alors, on va en reparler. Est-ce qu'il le fera ? Ça, ça reste une autre histoire. Mais moi, je t'avoue que franchement, je trouve que ça serait peut-être le meilleur choix pour lui. parce que je trouve que cette catégorie, on a toujours dit depuis le début que Lomachenko chez les légers, il est peut-être un petit peu limite sur le plan physique. Les super plumes, c'est là où il semblait le mieux briller. Maintenant, c'est est-ce qu'il peut revenir vraiment dans cette caté à son âge avancé? Je sais pas. Shakur Stevenson-Lomachenko, moi je t'avoue, hein, pour moi, de mon point de vue, c'est peut-être le plus beau des combats que tu peux proposer avec Loma. Mais il y a un fait, effectivement, qui est que Loma, comme on l'a dit, il est dans une course contre la montre et il a un rêve, c'est de devenir champion incontesté. S'il veut faire ce rêve dans un court laps de temps, il n'y a pas 36 solutions, c'est espérer pouvoir défier Devin Haney pour toutes les ceintures, tant qu'il est encore temps aussi, parce que Devin Haney n'en a sans doute plus pour longtemps dans les catégories, dans la catégorie des poids légers.
Ouais, moi j'ai même envie de te dire, Lomachenko, pour sa legacy, il en a besoin de redevenir champion du monde et même champion unifié. Parce que, alors, peut-être que des gens vont pas trop comprendre ce que je veux dire là, parce qu'on est en train de vivre, on est dans l'ère un peu de Lomachenko. Pour moi, Lomachenko, il a apporté un style et il a révolutionné la boxe. Mais peut-être, tu vas me dire ce que t'en penses, hein, qu'il en a pas encore suffisamment fait pour être ce nom qui ressortira totalement de cette génération et qu'on continuera à parler. Tu vois, comme là, récemment, on a fait tous les deux, on a fait un classement top 12 des meilleurs boxeurs. Et pour que Loma rentre un jour dans ce fameux classement des meilleurs noms, est-ce qu'il n'a pas quand même besoin d'encore un peu plus marquer son histoire en allant retrouver des ceintures de champion du monde et, ce qui serait magnifique, l'unification totale?
Ouais, moi je suis d'accord avec toi. En fait, déjà, Lomachenko, si on y réfléchit, un Ukrainien qui a boxé dans les petites catégories, des poids plumes aux poids légers, face aux géants américains, il va avoir du mal à... Enfin, pour les puristes, oui, on s'en souviendra, mais il va avoir du mal à marquer tant que ça l'histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on te demande le combat référence de Lomachenko, ben, tu sais pas trop. Moi, j'aurais tendance à te dire Nicolas Walters, mais Nicolas Walters, ça n'a pas été une superstar. On pourrait dire Rigondo, mais Rigondo, il y a toujours ce truc de dire « Ouais, mais il l'a pris, c'était quand même Rigondo qui… » C'était pas du tout les mêmes catégories de base. Tu as eu des bons combattants comme Linares, comme Pedraza. Et en fait, ben, celui qui aurait pu devenir peut-être le combat le plus référence, c'était contre Teofimo Lopez. Et là, il a manqué le coche. Donc ouais, il lui manque en fait encore ce combat-là. Je suis assez d'accord avec toi. C'est un petit peu comme peut-être... quoique c'est différent parce que Roy Jones, il y a quand même eu James Toney. Bon, il y a eu Bernard Hopkins, même s'il était jeune. Mais c'est vrai que Lomachenko, il lui manque encore ce quelque chose. Je suis d'accord avec toi.
C'est une bonne comparaison avec Roy Jones parce que pareil, Roy Jones, c'est un style unique. C'est un style.
Voilà.
Bien. Et je pense que pareil, Loma, c'est, pour moi, c'est un style... Tu sais, c'est quand tu as des mecs qui commencent à imiter. Comme il y a des gars qui imitaient Floyd Mayweather. Tu vois, ah, et là, ah ok, il a marqué une génération. Mais il faut encore qu'il ait ses combats, comme tu dis, ce combat référence qui lui manque un peu. Et bon, c'est pas vraiment sa faute, hein, on est un peu dur, mais c'est pour rentrer parmi les légendes. Et il le mérite, je pense.
Oui, 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 non, bien sûr, quand on voit ses capacités, ses qualités, c'est vrai qu'il y aurait eu plein d'occasions de ces dernières années. Il y a plein de combats qu'on n'a pas eu. On n'a pas réussi à avoir les combats contre Davis, on n'a pas réussi à avoir le combat contre Mickey Garcia au moment où même ça aurait représenté l'unification totale des légers. Il faut le rappeler, à l'époque, ils avaient deux ceintures chacun. Donc, ouais, c'est hélas, il y a des trucs comme ça qui ne sont pas faits. C'est, comme tu dis, c'est pas sa faute. Lui, pour l'instant, il a quand même pris. Je veux dire, moi, je me souviens le soir, par exemple, je prends souvent cet exemple où Teofimo, il bat Comé par KO au deuxième round. Je pense qu'il a fait peur à beaucoup de monde. Loma, il est au bord du ring. Il monte sur le ring pour annoncer le combat. Il fait pas du trash talking. Il fait pas de. L'année suivante, on a le combat. Donc, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a géré sa carrière en disant ouh là, peut-être je vais pas trop y aller. Donc, ouais. Et là, je pense que s'il revient. Très honnêtement, oui, il va choisir. Alors, il y aura un combat de reprise, c'est ce dont on va parler en octobre, parce que je ne pense pas qu'il va revenir de suite contre un gros nom. Mais pour l'an prochain, je pense qu'il va viser soit un Devin Haney, soit un Shakur Stevenson.
Alors, justement, ça me fait une bonne transition, parce que maintenant, Lomachenko, on connaît sa mentalité. Ensuite, depuis quelques années, c'est un homme de défi, c'est un homme qui cherche des titres. L'année où, malheureusement, là, il a dû arrêter la boxe, juste avant ça, les noms qu'il prend, c'est pas anodin. C'est pas voilà Nakatani et Comey, c'est pas pour rien qu'il prend ces noms-là. Et quel combat il nous fait. Donc pour son retour, est-ce que tu penses pas que le Loma, il va nous chercher un petit nom quand même, une affiche sympa? Est-ce que tu as des idées de ça?
Bien sûr, non mais attention, parce que moi je dis quand il va pas prendre de suite un gros nom, je veux dire il va pas prendre une des têtes de KT comme un Haney ou un Stevenson, mais oui, pour son retour, moi ça me paraît évident qu'il va chercher un nom Et alors là, moi, effectivement, il y a plusieurs idées qui me viennent. Alors, on peut peut-être parler d'abord, dans un éventuel cas où il irait chez les superplumes, quels seraient les noms à évoquer? Ou tu préfères qu'on aille directement sur les légers?
Vas-y, tu peux parler des poids superplumes, mais tu objectivement, tu le penses faire ça? Faire un retour chez les superplumes?
Je crois plus en l'option poids léger quand même. Je vais pas mentir, mais
Mais vas-y,
pourquoi
dis
pas? Ça serait intéressant. Mais bon, je pense que ça sera plus chez les légers. Mais chez les superplumes, ben moi, il y a un nom que je me dis qui pourrait être intéressant. Ben, c'est Rakimov, tu vois, qui est russe justement, enfin qui est pas tout à fait russe. Je crois qu'il est originaire, je sais plus exactement de quel pays il est originaire, mais je crois qu'il a la nationalité russe. Je sais pas. Alors du coup, peut-être que je dis une bêtise, peut-être que ce gars-là, il aura pas de licence pour combattre, puisqu'on a vu qu'effectivement, il y a des boxeurs russes, comme tu l'as rappelé, à qui on a retiré les licences et le droit de combattre sur le sol américain, puisque le retour de l'OMA se fera sûrement aux États-Unis. Mais Rakimov, c'est un mec invaincu qui est très bien classé chez les superplumes, et je trouve que ça serait une opposition de style très, très, très intéressante. Donc ça, voilà. Après, bon, alors j'aurais bien pensé aussi contre Cesao, mais il va affronter Shakur en septembre, donc je pense pas qu'en fait, du coup, c'est sûr même que ça sera pas possible pour l'OMA d'ici le mois d'octobre. Après, si on va plus sur l'option du coup léger, moi, parmi les noms qui me viennent en tête, ben, il y avait Isaac Cruz, tu vois. Isaac Cruz, pour moi, ça serait un des noms les plus intéressants. Est-ce qu'il ira vers là, en fait? Je me dis, est-ce qu'Isaac Cruz, en fait, est-ce que l'OMA aussi va pas chercher à prendre des combats en vue peut-être de se préparer soit pour un Shakur, soit pour un Devin Haney? Et du coup, Isaac Cruz, en fait, ça correspond pas du tout au profil de combattant qui pourrait plus ou moins le préparer à ce type d'opposition, si tu veux. Mais ça serait un super combat, je sais pas ce que tu en penses.
Est-ce que, alors, je t'avais posé la question, est-ce que t'as pas d'autres noms chez les super plumes, mais tu m'as pas entendu, mais je pense que
Ah, ouais, excuse-moi, ouais, peut-être un problème d'écouteur ou de micro, ouais.
En fait, je crois que les pistes sont, quand toi tu parles, la mienne elle est automatiquement coupée. Je pense que c'est pour ça que tu m'entends pas tout de suite.
D'accord.
Mais bref, c'était juste pour savoir, pour essayer de te relancer si jamais t'avais d'autres idées, non?
Alors chez les super plumes, non, mais après je pense pas qu'il prendra un Oscar Valdez. Je pense pas même que du côté Oscar Valdez, après ce qui s'est passé face à Shakur, on va vouloir revenir face à Lomachenko, même un Lomachenko qui est peut-être un peu déphasé de tout ce qui s'est passé. Je doute qu'on voit ça arriver, même si d'un côté c'est Top Rank, on pourrait se dire tiens, ils sont dans la même écurie, mais je pense pas que ce soit réalisable, ce combat. Donc chez les super plumes, l'option que je verrais, pour moi, c'est Rakimov. Après, oui, il y en a sans doute d'autres, mais j'ai pas forcément d'idée en tête.
J'ai une idée qui me traverse comme ça. D'aller chercher un titre chez les super plumes pour arriver en tant que champion et défier le champion de la catégorie supérieure. Parce que tu sais, là, comme chez les légers, c'est unifié. Donc tu as un champion.
Ouais, bien sûr.
Tu penses de cette idée? Parce que ils sont pas, Shakur Stevenson, il a deux titres, hein, c'est bien ça.
Oui, c'est ça.
Donc aller chercher un autre champion, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, ça pourrait être intéressant. Après, alors, moi, je regarde, tu vois, les champions que tu as en Superplume, tu as Roger Gutierrez, vénézuélien. Je suis pas forcément sûr que ce soit hyper vendeur, que ce soit non hyper accrocheur. Tu aurais en Angleterre Joe Cordina, qui récemment s'est emparé du titre IBF face à Kenichi Ogawa, le japonais, qui a marqué un super KO au deuxième round. C'est quand même un gros morceau, Cordina, pour un retour, même s'il n'a pas du tout l'expérience de Lomachenko. Mais c'est en plus un gars qui est assez balèze physiquement, je crois. Donc ça serait quand même un risque de le prendre comme ça dès le retour. Après, avec Lomachenko, pourquoi pas. Ouais, ça pourrait être une idée.
Moi, quand je te dis ça, c'est vraiment pas dans l'idée de chercher un nom, mais c'est le titre. C'est de venir, de dire, regardez, je reviens, tout de suite, titre en jeu, parce que ça, c'est des trucs que l'OMA, il aime bien faire. Et après, dire, bah voilà, je suis champion du monde, maintenant, je vais aller reprendre, enfin, je suis redevenu champion du monde des super plumes, et je vais aller retourner en léger prendre les titres. Tu vois, c'est un truc un peu dans la mentalité de l'OMA, je le vois bien faire un truc comme ça, tu vois.
Oui, c'est pas idiot. Surtout, comme tu dis, c'est vrai que chez les légers, il n'a pas pu se permettre ça dans ses combats de retour, puisque tout était cadenassé, tous les titres étaient autour d'une même taille. Hein. Donc, ouais, ça pourrait peut-être être intéressant. Si, dans l'optique, une fois encore, il revenait, il faisait un retour chez les superplumes, ça pourrait être intéressant d'aller chercher un champion, effectivement. Je ne sais pas d'ailleurs où Cordina et Gutiérrez, chez quel promoteur ils sont, si ça serait possible du point de vue politique de la boxe. Mais ouais, ça serait intéressant.
pense que ces deux mecs-là, on va pas se mentir, Loma, il signe direct. Hein. Il n'y aura pas trop de difficulté à s'arranger avec leurs promoteurs parce que leurs promoteurs, ils vont jamais trouver une opportunité comme ça de les faire signer. Donc, je pense qu'ils n'auront pas trop de difficultés à s'arranger. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, bon, si tu as une opportunité avec Lomachenko, oui, je pense que quand même, surtout que, bon, Top Rank mettra l'argent sur la table aussi.
Voilà, et puis, l'en face, ils vont se dire, ouais, mais attends, ces mecs-là, on a quoi à leur proposer de mieux? On va galérer par rapport à un combat contre Shakur Stevenson. Alors que là, tu as Loma qui arrive sur un plateau, ils vont signer sans problème. Après. Ça serait fou, mais pour l'histoire, ça serait beau. Et après, donc, toi, tu le vois, après un combat de reprise. Alors, peut-être un combat de reprise chez les légers. Donc là, c'est ce que tu me disais. Alors là, vas-y, je vais rebondir sur ce que tu disais, parce que tu disais intéressante. Peut-être prendre un Isaac Cruz, mais ça ne serait pas pour le préparer pour le style d'un champion en titre ou un potentiel nouveau champion. Disons que, imaginons, comme Bossos reprenne des titres. Voilà. On sait jamais dans la boxe.
Ah oui, bien sûr.
Isaac Cruz, c'est pas un combat de préparation pour ça. Mais, alors là, je vais te répondre, Vincent. Est-ce que Lomachenko a besoin de faire un combat de préparation avec un style similaire? Je pense, je vais répondre, tu donneras ta réponse après, que Loma, il peut s'adapter même sans avoir un combat contre, tu vois, contre le profil type, on va dire.
Oui, bien sûr, c'est vrai, c'est sûr que bon, on l'a vu d'ailleurs, quand il a pris Nakatani, il était dans l'optique d'une revanche face à Teofimo, c'est pas du tout les mêmes profils, mais c'est qu'il voulait montrer en fait, envoyer un message en disant, mais regardez, Teofimo n'a pas su l'assommer, moi j'arrive à le finir avant la limite, c'était pour appuyer, pour aller vers cette revanche. Donc là, c'est vrai qu'Isaac Cruz, c'est pour ça que c'est un nom qui m'est venu aussi, parce que je me dis, Isaac Cruz, il a fait ses galons avec Gervonta Davis, il l'a mis en difficulté. Et il a fait une belle performance contre, bon, certes, un très vieux Gamboa qui commence à trop avoir subi d'usure, mais il a fait quand même une belle performance, Isaac Cruz, cette année. Donc, je pense qu'en fait, ça serait le côté de dire, il se dit, si lui sent qu'effectivement, il peut vraiment faire un gros truc face à Cruz, d'envoyer un message à la catégorie, de dire, eh ben, regardez-moi où je suis par rapport à Isaac Cruz, quoi.
Alors là, je te rejoins complètement. Mais alors là, pour le coup, un peu risqué comme retour.
C'est risqué. Après, il faut pas oublier que Loma n'a pas boxé depuis un peu. Enfin, s'il fait son retour en octobre, ça fera un peu moins d'un an qu'il n'a pas boxé. Effectivement, entre-temps, il y a eu la guerre, tout ça. Mais je pense que s'il est remis en forme physiquement, il a suffisamment de capacité pour briller face à Isaac Cruz, je pense, malgré cette période de coupure.
Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Et Isaac Cruz, il est impressionnant physiquement, mais il est quand même assez limité. Et face à un Loma, je pense qu'on va voir la différence.
C'est ça, ouais. C'est ce que je me dis. Après, un autre nom que j'avais en tête chez les légers, qui est pas très connu, qui fait pas beaucoup parler de lui, mais que moi je trouve serait intéressant, c'est Jeremiah Nakatila, le Namibien, qui a fait parler de lui ce début d'année quand il a tapé Miguel Berchelt. Je sais pas si t'as vu le combat. Okay. Quand Berchelt a fait une tentative de monter chez les légers. Il l'a tapé, il a mis un beau KO.
Ouais, j'ai vu le KO.
Voilà, ouais. Et Nakatila, alors c'est un mec qui avait perdu en super plume contre Shakur Stevenson, je crois que c'était en 2019 ou 2020, je ne sais plus exactement. Ou peut-être au même, si je me demande, c'était pas l'an dernier, en 2021. Donc bon, face à Shakur, il avait clairement montré un petit peu ses limites techniques. Mais j'ai l'impression que depuis qu'il est monté en léger, ce mec, je le trouve mieux. Alors après, bon, Berchelt sortait de la grosse défaite face à Valdez, donc ça peut un petit peu fausser la donne, mais quand même, ce qu'il a fait, il a prouvé que c'est un boxeur, c'est peut-être pas le meilleur de cette KT, mais c'est un des plus dangereux, très honnêtement. Ça me fait un peu penser sur le genre de défi qu'a pris Lomachenko depuis sa défaite contre Lopez, c'est-à-dire des Nakatani, des Comé, c'est peut-être pas les plus gros cracks techniquement, et encore que bon, Comé est quand même très très bon, mais c'est souvent des mecs que tu préfères un petit peu éviter, quoi, ils sont dangereux.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas les plus glamour en termes d'affiche, mais sportivement, c'est magnifique.
Ouais, voilà. Et puis, tu sais qu'il y a toujours un risque qui est assez élevé, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est des affiches sportives. Et d'ailleurs, tu regardes les combats. Là, je me suis refait le combat contre Comé. Et Comé, il veut pas lâcher. Et même des fois, il fait des petites séries parce qu'il est complètement dominé, Comé. Hein. C'est oui. Parce qu'il fait Loma, c'est impressionnant. Et parfois, il fait des séries, vas-y, il envoie, et ça fait même un peu chier l'Oma, tu vois. Donc, non, sportivement, c'était, il fallait les chercher, ces noms-là. Et puis, moi, il m'a régalé. Moi, je dis encore, 2021, ce qui fait l'Oma, c'est exceptionnel.
Ouais. Moi, j'avais été très impressionné par face à Comey, parce que dans le premier round, regardez ce que fait Comey. C'est hyper intelligent la façon dont il utilise son jab. Et comme il cueille Lomachenko au moment où il fait ses pivots, il le time un peu, il le cueille au moment où il fait le pivot. Et j'ai dit, ah, Lomachenko va avoir quelques petits problèmes. Il devrait s'ajuster d'ici quelques rounds. Et en fait, dès le deuxième round, ça y est, les ajustements sont faits. Et boum, boum, ça rentre. Et là, ça part sur la domination à sens unique, quoi.
Ok. Bah écoute, alors, le Namibien, c'est ça, donc tu proposais ?
Oui, voilà, Jeremy Nakatila, ouais.
Ok. Est-ce que tu as une autre petite idée ?
Ah, chez les légers, là, comme ça, en étant réaliste, possiblement, je vois pas qui y aurait d'autre. Je pense pas, tu vois, qu'on aurait une affiche contre Gervonta Davis ou Ryan Garcia. Il y aurait peut-être, j'avais pensé, Jojo Diaz, pourquoi pas, mais même ça, je suis pas sûr.
Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé, mais pourquoi pas, ouais. Une revanche contre Linares.
Ouais, Linares, il boxe encore. Hein.
Ouais, donc c'est encore Linares, hein. il défie Ryan Garcia.
Ah, j'ai pas suivi, tu vois, ouais, donc oui, il est encore là, d'accord.
Ah, bah, il s'est pris un KO, ça, au Mexique, je crois, il a fait un combat, il s'est pris un KO.
Ouais, alors moi, j'ai pas re-suivi depuis sa défaite contre Année. Je me souviens qu'avant Année, il avait tenté, mais juste après l'OMA, une montagne super léger où il avait pris un KO dès le premier round. C'est pour ça qu'il est revenu en léger. Mais après, ouais, j'ai pas trop suivi depuis Devin Année ce qu'il a fait, Jorge Linares.
Ouais, il s'est pris un KO au Mexique, je crois, un truc comme ça. Il est allé, en plus contre un inconnu. Je me demandais même pourquoi il avait accepté ce combat-là, parce que après son combat contre Année, il aurait pu quand même demander un nom, tu vois, parce qu'il avait fait un beau combat. Et tu sais, dans la boxe, quand tu as fait une belle prestation, tu peux être rappelé. Oui. Bah, un peu comme un Gamboa. Tu
vois, Gamboa. Oui, ou Rosado, regarde Gabriel Rosado.
Voilà, exactement. Gabriel Rosado, c'est un bon exemple aussi. Écoute. Et Loma Gamboa. Un autre.
Ah ouais, alors c'est une affiche qui serait sympa. Il y a quelques années, je me souviens à l'époque quand Loma avait débarqué chez les Légis, ils en parlaient et je disais, bon, c'est le temps est déjà passé pour Gamboa, mais c'est sympa. Là, aujourd'hui, je trouve que ça ressemblerait trop à. Ben, en fait, je suis les autres. Tout le monde y est passé dessus sur Gamboa, c'est triste à dire. Mais ouais. Que ce soit Davis, Anne, Isaac Cruz, si tu arrives derrière, en fait, ça fait vraiment le mec qui vient grignoter les miettes et je pense pas que Lomachenko il soit dans cette optique-là.
C'est vrai, c'est pas son genre, je vois. Ok, bah écoute, en tout cas, c'est vrai que Lomachenko, c'est un boxeur qu'on attend. Enfin, c'est toujours un régal de le voir boxer, voir et revoir. Et on aimerait bien revenir à un bon niveau, quoi, qui va pas être trop impacté par cet arrêt. Ça me ferait chier parce que quand t'as eu une année 2021 où tu te dis, putain, tout est possible. Tu sais, après l'année 2021, tu te dis, oh là, on veut le voir pour un titre, on veut le voir avoir sa revanche, on veut le voir. Bah, il reste dans un combat serré contre Lopez, parce que quoi qu'on en dise, c'était très serré, ça se voit pas grand-chose. Derrière, il fait les efforts pour, vraiment, il veut redevenir challenger. Ça, c'est vraiment l'idée, c'est pas comme Bossos qui active sa clause de revanche, ça saoule. Tu vois, là, c'est vraiment l'esprit de redevenir challenger, donc de prendre des défis, de se remettre dans les classements, et ça, c'est un esprit sportif que j'adore chez Lomachenko. Et ça me ferait chier que maintenant, bah, à cause de cette foutue guerre, le pauvre, il soit mis de côté. En plus, ça met une balle dans le pied de sa carrière et il reviendra jamais à son meilleur niveau. Je dis pas à son niveau, son poids de forme, à son prime, mais son meilleur niveau actuellement. Et ça me ferait vraiment chier parce que c'est pas le genre de mec qui le mérite, tu vois.
Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec toi. C'est on aurait la sensation d'un immense gâchis, surtout comme tu l'as dit. Je veux dire, moi ce que je rappelle, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai jamais vu de trash talking avec Lomachenko. Moi, j'ai vu beaucoup de mecs, on en a tous trop vu ces dernières années, qui vont se défier sur le ring, qui se mettent tête contre tête à s'insulter et les combats, ils arrivent jamais. Moi, je me souviendrai toujours, voilà, Lomachenko qui monte sur le ring pour face à Lopez pour l'unification des ceintures. En plus, un jeune invaincu qui vient de faire un gros KO. Mais voilà, dans l'année suivante, le combat est lié. Ça tergiverse pas, il n'y a pas de chichi. Et effectivement, quand il faut revenir au niveau, comme tu l'as dit, eh bien, allez, on va prendre des Nakatani, on va prendre des Comey. Donc, ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est un mec qui est méritant, qui bosse. Et j'aimerais le voir revenir. Comme tu l'as rappelé, le prime de Lomachenko est passé. Mais de ce qu'on a vu l'an dernier, s'il arrive à revenir au même niveau qu'on a vu l'an dernier, effectivement, c'est du très, très haut niveau, quoi.
Ouais. Ça va être quand même compliqué. Je vais pas me leurrer. Hein. Je pense que de retrouver Lomachenko sur la même dynamique qu'en 2021, ça risque d'être dur. Mais comme c'est
Lomachenko. Surtout à son âge. Hein.
Ouais, voilà. Surtout à son âge, et puis avec ce qui s'est passé. L'inactivité, on sait que l'inactivité pour les boxeurs, c'est très compliqué. Voilà, on le sait bien. Moi, j'ai très peur pour Arsène, là, Arsène Guelemérin, quand il reviendra. L'inactivité, c'est ce qu'il y a de pire. On l'a vu avec Michel Soro, voilà. Donc, c'est à tous les niveaux, hein. Bien sûr, je compare pas les niveaux de Soro et de Arsène avec Lomachenko, mais l'inactivité dans la boxe, c'est assez dur. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne. J'espère qu'en tout cas, il va pouvoir revenir au mieux que possible, et puis pouvoir, pourquoi pas, avoir une chance d'avoir tous les titres, et cette fois-ci que ça passe.
ouais, bien sûr, écoute, on verra. En tout cas, moi je te dis que ce soit un Devin Haney ou un Shakur Stevenson, c'est deux gros combats que j'aimerais voir. Shakur, vraiment, alors c'est toujours le paradoxe, parce que Devin Haney a toutes les ceintures, donc c'est dans ça qu'on aimerait voir aussi, c'est tous les enjeux. Par contre, je trouve que Shakur est encore plus intéressant en termes d'opposition de style. Je trouve avec Loma, ça serait vraiment, il y aurait un truc vraiment ouf à faire, je trouve.
On parle plus du tout de Gervonta Davis. Moi, je vois bien, ça va en faire plein de Manny Pacquiao contre Mayweather. Ça va arriver quand tout le monde s'en fout.
Ouais, c'est peut-être possible. Ouais, ben écoute, Davis, je pense que sa carrière prend une autre tournure aussi. Je pense vraiment qu'on va aller sur un Davis Garcia à terme, honnêtement.
Bon, ben oui, bien sûr, il faut aller
partout. Ouais, bien sûr.
Davis, il va déchirer la gueule de Ryan Garcia, puis ça sera réglé.
Hein, on va voir. Il reste favori, on va pas se mentir, Gervonta Davis. Mais attention, on va voir.
Ah, quand même. Tu peux pas finir ce podcast sur ça. Non, mais arrête.
Ah, écoute, peut-être que l'avenir, on verra qui l'avenir en aura raison. Non, mais après, comme je dis, je mets quand même Davis au-dessus. Mais voilà, comme on a déjà parlé entre nous, moi je suis un peu inquiet de la tournure de la carrière de Davis depuis des années, parce que c'est un boxeur que j'aime beaucoup, Gervonta Davis. Il a ce petit mix en fait entre Floyd Mayweather et Mike Tyson que j'adore. Mais voilà, je trouve que sa carrière prend une tournure depuis quelques années qui me fait un peu peur pour son héritage. Et bon, donc je sais pas, j'ai des doutes le concernant.
T'inquiète pas, Vincent, il va mettre KO Devin Haney et on en reparlera à ce moment-là.
Bah écoute, j'aimerais bien, mais à ce jour, je t'avoue que je favorise clairement Haney. Hein.
Il y a un gars sur Instagram qui est tout le temps en train de me faire la bagarre parce qu'il est à fond sur Devin Haney et Shakur Stevenson, et moi je suis plus Gervonta Davis. On est tout le temps en train de se faire la bagarre télé gentiment, bien sûr. Hein. Mais c'est marrant. Dès que je fais un post sur Gervonta, il me dit ah, là, tu verras quand tu vas prendre Devin Haney. Je dis non, tu verras toi. Et pareil sur Errol Spence et contre
Terence Crawford. Ouais. Encore faudrait-il que ça s'officialise, ça aussi, voilà. On en a déjà parlé, mais ça commence à devenir un peu long.
Dans la boxe. Enfin bon, allez, on était dans une bonne dynamique. Bien discuté, 50 minutes, Vincent. Pour ceux qui font leur footing, c'est cool. Merci à toi. Et puis on se refait rapidement un autre podcast.
Eh bien, bien sûr, écoute avec plaisir.
Allez, je vous dis à tous. À la prochaine. Bye, Ching.
Salut à tous.